Olá, bem-vindos a todos a mais uma emissão do Togonada. Hoje uma emissão especial aqui em Ronde, na sala Recto Verso, para o Festival de Portugal Open 3. Hoje estamos aqui em Ronde com a nossa equipa da Rádio Vibração, com o Christophe, a Ana Sofia, a Adelina e, moralmente, com o Ricardo.
Um abraço para ele.
Está tudo bem convosco?
Está tudo, obrigado. E muito contente por estar aqui hoje neste Portugal Open 3, que com certeza, como foi o ano passado também, muito interessante e cheio de surpresas e também descobrir e conhecer personalidades importantes e personalidades também ao vivo, como, por exemplo, escritores e personagens políticas também, que vão ter a oportunidade também de poder participar justamente a uma mesa redonda que vai ocorrer hoje, neste sábado, com a primeira mesa que vai falar de, depois de maio de 68 e da Revolução de Portugal em 74. E também haverá uma outra mesa redonda que vai tratar do tema da integração dos estrangeiros pelas escolas e falar das dificuldades e soluções que podem encontrar.
Vamos lembrar aos nossos ouvintes que hoje a Rádio Vibração vai interferir, vai gravar e vai fazer entrevistas sobre os poetas, os atores e quem quiser ser entrevistado. Ficam muito atentos e bom escuto aos nossos auditores.
E até já.
Vamos participar à mesa redonda que vai falar das revoluções de maio de 68 e da Revolução dos Cravos de 74. Os seguintes convidados são Paulo Pisco, deputado socialista do Parlamento Português, Nazaré Torrão, encarregada do ensino da Universidade de Geneve, Francisco Icunha, humorista, Matias Reinar, deputado nacional presidente dos sindicatos do Valais, Noémie Michel, professora de teoria política.
Vou dizer que quando on m'a proposé d'animer ce débat, j'ai pas beaucoup hésité parce que j'ai beaucoup de sympathie pour la communauté portugaise. Donc j'étais ravie quand on m'a dit que le débat tournerait autour de la liberté d'expression après mai 68 et avril 1974, j'ai aussi trouvé ça très intéressant. Et puis, vous dire tout de suite, on ne va pas animer un débat technique et pointu, on va vraiment essayer de réfléchir comment ces deux événements ont modifié nos communautés, la vôtre portugaise et la vôtre suisse ou européenne. Et puis, et cela, je l'ai aussi accepté avec plaisir quand j'ai su qui j'aurais autour de la table. Alors, il est peut-être temps de vous présenter mes invités. On va aller peut-être dans l'ordre autour de la table, ça sera plus facile pour vous pour vous repérer. Et on va commencer par William Ossipoff, qui est professeur de sciences politiques à la retraite, mais émérite. Et lui, et ça va être une petite exception que je fais dans ce débat, William Ossipoff avait 25 ans en mai 68. Et je vais lui demander juste de nous dire deux mots pour se présenter.
Ben écoutez, je suis professeur honoraire, comme on dit, c'est-à-dire à la retraite. Ça ne m'empêche pas, Dieu merci, de travailler de temps en temps. Et puis, c'est avec très grand plaisir que j'ai accepté l'invitation à venir vous parler avec mes collègues. Invitation que j'ai reçue hier matin. Mais voilà, on se mobilise et c'est avec très grand plaisir que nous échangerons ici. Merci.
Bien. À sa gauche, Mathias Reynard, qui est donc conseiller national socialiste, que je pense tous les Valaisans connaissent, peut-être moins les Portugais, qui est aussi président de l'Union syndicale valaisanne. Et lui, c'est un petit peu notre phénomène autour de cette table, puisqu'il n'était pas né ni en 68 et ni en 74, pour la simple et bonne raison qu'il est né en 1987. Alors je vais peut-être juste lui demander en deux mots, comme M. Ossipoff, de nous dire quelques mots sur lui et sur pourquoi il a accepté de participer à ce débat.
Bon, ben, merci tout d'abord pour l'invitation. C'est un immense plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. J'ai tout de suite accepté parce que j'ai des liens particuliers et forts avec la communauté portugaise, en tout cas avec de nombreux Portugais dans le canton du Valais. Puis lorsqu'on m'a proposé les différentes thématiques, que ce soit la liberté d'expression, que ce soit l'intégration par l'école, c'est des thèmes qui me sont chers. Puis c'est vrai, j'étais pas né en 68, j'étais pas né en 74, mais j'ai fait une formation en histoire et je me suis beaucoup intéressé aux mouvements sociaux et aux luttes sociales. Et je pense, en tout cas j'espère, m'intégrer dans cette lignée de ceux qui s'engagent pour les luttes sociales, pour davantage d'égalité, comme l'ont fait de nombreuses personnes en 68 en Suisse et en France, et en 74 au Portugal.
Juste après mettre le micro un peu plus loin, je ne sais pas, mais il me semblait que c'était pas... Le son, ça allait, ça va pour vous? Ok, alors on continue. À ma droite, un invité qui nous vient tout droit de Lisbonne, Paulo Pisco. Vous aviez 12 ans en 1974, en avril, et vous étiez à Lisbonne, et vous êtes député socialiste au Parlement portugais, élu dans la circonscription européenne, plus exactement à Bruxelles. Alors, deux mots, et j'imagine aussi l'évidence qui fait que vous êtes avec nous aujourd'hui.
Merci tout d'abord pour l'invitation, pour participer à ce débat sur un thème qui me tient à cœur, c'est la liberté d'expression. Effectivement, je suis élu par les Portugais en Europe, et en Suisse, on sait bien que tous les Portugais sont dans tous les cantons. Donc on a une communauté très expressive que je visite assez souvent. Et ce débat-là, dans le cadre du 25 avril, c'est quelque chose de très important parce que c'est à nous aussi, à nous tous, pas seulement les agents politiques, de transmettre l'importance de la démocratie. Cet événement majeur qui est arrivé en 1974 au Portugal et qui étant un phénomène portugais, c'est aussi un phénomène global, universel, parce que la démocratie, c'est pas seulement la démocratie au Portugal, la démocratie c'est en valeur universelle. Et donc, célébrer ici, dans la forme d'un débat, la démocratie, la liberté d'expression, qu'une chose ne va pas sans l'autre, et la citoyenneté, l'autre chose qui est liée, c'est pour moi un énorme plaisir, un honneur, et parce qu'on a ce devoir de maintenir vif cette flamme qui est la flamme de la liberté.
Merci. Alors pour jouer le jeu, puisque je suis un peu indiscrète avec tous mes invités, moi j'avais 12 ans en 1968. Et à ma gauche, nous avons Nazaré Touran.
Touran.
Je ne vais peut-être pas essayer longtemps à le dire en portugais. Et donc vous aviez 12 ans, vous étiez aussi au Portugal au moment des événements d'avril 1974 et vous êtes chargé d'enseignement à l'Université de Genève au département de langue et littérature romane, unité portugaise. Et en deux mots, vous présenter et nous dire le plaisir, je crois, que vous avez à être ici pour débattre de cette question.
Oui, alors bonjour à tous, je vous remercie d'être présents. Quant à moi, je remercie aussi les organisateurs et le fait de m'avoir invité. Quand on m'a posé la question, est-ce que vous acceptez de participer à une table ronde sur la liberté d'expression, le mai 68 et la révolution de 74, j'ai été un peu surprise. Ma première réaction a été instinctivement de dire oui, parce que je trouve que ce type d'initiative doit être soutenu et j'ai beaucoup de sympathie pour la participation active de la communauté. En même temps, après réflexion, je me suis demandé mais comment tu t'es mise dans une telle situation, puisque enseignante de littérature, je ne suis ni en agent politique, ni la discipline que j'enseigne est en droit rapport avec ces questions-là. Toutefois, comme enseignante en lettres et particulièrement aussi de littérature et de langue, j'analyse les discours, la langue, les discours littéraires et autres qui peuvent avoir toujours, qui font toujours un certain reflet de ce qui se passe dans la société. Dans ce cas, donc tous les textes que j'analyse, ils reflètent soit la liberté d'expression, soit leur abus, soit une auto-censure qu'on se fait, soit imposée à soi-même, soit par le milieu ambiant. Dans ce sens, je me suis dit, bon, je peux peut-être porter aussi, il se peut que mon contribut soit aussi utile. Et évidemment, le 25 avril est une date essentielle pour moi, qui a changé du tout au tout ma vie, et donc je pense que c'est important. Je vous remercie d'être là, on verra ce que ma contribution peut apporter.
Et notre dernier invité, pas des moindres, il n'avait que 6 ans en avril 1974, et presque plus que vous, Nazaré Torao, il aurait pu être surpris d'être invité, puisque c'est un humoriste. Alors en France, il s'appelle Francisco, tout juste pas François, Ecuna. Et puis ici, on peut l'appeler, si on veut, Francisco Ecuna. Et merci d'être là et de nous dire en quelques mots comment vous avez atterri pour mettre l'ambiance dans cette salle.
Alors bonsoir, merci avant tout pour l'invitation aux organisateurs. Je suis humoriste, je suis comédien, je fais de la mise en scène et j'écris des pièces de théâtre à Paris, en France. Et j'étais très content d'être invité parce que, premièrement, c'est une association communautaire qui touche un petit peu à mon cœur, puisque je suis d'origine portugaise, je suis né à Paris, mais je suis d'origine portugaise et j'ai eu, comment dire, pas la chance, mais le hasard des choses a fait que j'avais 6 ans quand il y a eu la révolution en 1974. J'étais là-bas pendant 3 mois avec mes sœurs et je me suis retrouvé sur les épaules de mon cousin en train de manifester. Et donc voilà, je suis touché par cette révolution et aussi par évidemment mai 68 qui a donné la liberté, qui a apporté une certaine liberté à la société française. Et donc je trouvais intéressant ce débat avec des gens complètement différents, venus d'horizons un petit peu différents.
Alors peut-être pour ceux qui dans la salle avaient une idée peut-être plus vague de la révolution des œillets au Portugal ou de mai 68, pour tous ceux qui n'étaient pas nés non plus à ce moment-là, on va peut-être juste resituer ces événements avec chacun des invités. Vous rappelez que mai 68, c'était il y a tout juste 50 ans. Je crois que c'est difficile de ne pas le savoir actuellement, on l'entend partout. Ça s'est déclaré à Paris, dans les universités, une sorte de révolte estudiantine qui a fini par se propager dans la rue, dans le milieu ouvrier. Il y avait quand même eu 7 morts dans les mois de mai 68, une centaine de blessés. Et les répercussions de cette révolte, révolution, comme on l'a appelée, ont été vraiment sensibles en France, évidemment, mais loin à la ronde, et autant peut-être ici, en Suisse romande, on est pour en parler tous ensemble. Alors, j'aimerais commencer, on va reprendre notre ordre, ça sera plus facile pour tout à l'heure, avec William Ossipoff. J'aimerais savoir, vous, vous avez forcément un souvenir personnel de mai 68 qui a peut-être guidé aussi votre réflexion et qui a orienté ce que vous en pensez aujourd'hui.
Non, mais malheureusement, je n'ai pas de souvenir de manifestations à l'université de Genève. Les choses étaient relativement calmes, excepté peut-être l'occupation du bureau du rectorat qui a duré quelques petites heures, mais sans conséquences majeures. Mais à cette époque, j'étais beaucoup en bibliothèque, je le suis toujours du reste. Voilà, c'est un peu comme un héros d'un roman de Stendhal qui voit les batailles de Waterloo, mais depuis très loin. Et j'ai vu, malheureusement, j'ai pas été un témoin actif.
D'accord, mais vous aviez 25 ans, vous étiez étudiant. C'est dire quand même à quel point, à ce moment-là, en tout cas, les universités suisses, la Suisse était encore loin. Elle n'avait pas encore reçu les vagues de cet événement.
Alors, nous étions ici en Suisse assez spectateurs étonnés de ce spectacle incroyable de la, entre guillemets, révolution de mai 68. C'est un phénomène, mai 68, qui a des répercussions, d'abord ici en France, en Suisse, essentiellement culturel, je dirais. C'est une autre manière d'envisager le monde, une transformation de la manière de s'exprimer, une libération de la parole, comme on dit. Et il faut quand même remarquer que, par ailleurs, les institutions politiques françaises sont restées identiques à ce qu'elles étaient auparavant et ce qu'elles sont toujours maintenant. Donc, c'est surtout au niveau culturel qu'il faut entendre de manière extrêmement extensive que mai 68 a eu un impact, alors peut-être non seulement français, mais européen et peut-être planétaire d'une certaine manière. La révolution de 1974 au Portugal était de nature évidemment complètement différente. Le Portugal vivait dans un système hérité du fascisme, une sorte de dictature s'amollissant mais qui restait non démocratique, avec une culture assez surveillée. Et la révolution des œillets a été à la fois une révolution politique, puisque le système politique a complètement changé, et une révolution culturelle, puisque à partir de 1974, le Portugal s'est ouvert à un certain nombre de choses, dont la liberté d'expression, qui est un des sujets du jour.
Qu'on abordera peut-être tout à l'heure.
Oui.
Si vous êtes... On va passer à Mathias Reynard, alors, qui n'a pas vécu mai 68. Et puis, je vais peut-être demander aux Portugais de plus parler du 25 avril, puisque ça les touche plus personnellement. Et à Mathias Reynard, peut-être de s'en tenir pour l'instant à mai 68. Qu'est-ce que vous avez hérité? Qu'est-ce qu'on vous a raconté? Comment vous avez découvert et appréhendé mai 68?
Bon, je crois que le principal danger, bien souvent, c'est l'oubli. C'est l'oubli, c'est d'oublier que tout n'a pas toujours été donné, que la liberté d'expression n'a pas toujours été une réalité dans notre pays, sur notre continent. Et on a bien souvent des choses qui nous le rappellent et des événements qui reviennent. Et c'est pas par hasard si, il y a 4-5 ans, et c'est ma seule parenthèse sur le Portugal, je laisserai ensuite les Portugais s'exprimer là-dessus, ils connaissent mieux la situation, mais c'est pas par hasard si, il y a 4-5 ans, lors de manifestations au Portugal contre l'austérité, c'était Grandola Vila Morena qui était chantée. C'est pas un hasard. C'est parce qu'on s'inscrit toujours dans des luttes qui nous ont précédés. Et pour ce qui est de mai 68, c'est particulièrement le cas. J'ai fait une formation en histoire et je sais à quel point l'interprétation de l'histoire et le fait de laisser de côté certains événements a des incidences et a une volonté politique. Et aujourd'hui, quand on parle de mai 68, souvent on dit que c'est des 68 arts. On essaye de dénigrer un peu ça en ayant uniquement l'aspect contestation, libertaire, des libertés très individuelles qui sont mises en évidence. Mais mai 68, c'est bien plus que ça. Mai 68, c'est le pacifisme, c'est un mouvement, notamment en Suisse, anti-nucléaire, c'est, et surtout je crois, un mouvement de libération des femmes, avec le MLF qui se crée également en Suisse, et sans lutte en 68 et dans les années 70 pour les droits des femmes, eh bien aujourd'hui, on n'aurait pas eu un mouvement MeToo. Aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas encore, parce que je rappelle que c'est 71, le droit de vote des femmes, tout est donné par des luttes, et les luttes de 1968, même si elles n'ont pas eu les mêmes, si elles n'ont pas eu la même intensité dans notre pays, elles ont eu un très fort impact au niveau politique, au niveau d'intellectuel, et elles ont permis ensuite d'avoir toute une série de paradigmes qui ont changé. Et je terminerai là-dessus, la directrice du Bureau fédéral de l'égalité disait dans le journal, je ne sais plus si c'était ce matin ou hier, que sur la question de l'égalité, on avait gagné la bataille des valeurs. Et je pense que c'est tout à fait vrai, la bataille des valeurs a été gagnée. Maintenant, il reste à reproduire ça concrètement dans des lois sur l'égalité salariale et autres.
La bataille des valeurs, ça me donne l'occasion de dire une chose importante. C'est vrai que si aujourd'hui on se permet de comparer mai 68 et avril 74, c'est parce qu'on est entre nous, on est dans ce Open Portugal. Mais c'est vrai qu'en 74, à Lisbonne et au Portugal, il s'agissait de combattre 40 ans de dictature, d'émanciper un peuple qui était derrière et qui avait d'autres enjeux. Paulo Pisco, vous aviez 12 ans. Qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce que vous gardez
de ce mois d'avril-là?
Moi, je dirais que la mémoire que j'ai de ce jour-là, j'ai une mémoire assez précise, mais c'est la mémoire de quelqu'un qui a vécu ça un peu de loin, chez moi, dans ma rue. Je jouais dans ce jour-là, je n'étais pas à l'école, mais je me souviens très bien de la gravité des événements qui arrivaient. Et donc, c'est cette gravité de l'importance de la révolution qui, après, on a toujours vécu tous les années, précisément dans les cérémonies du 25 avril, que je trouve que c'est très bien que partout où on puisse avoir ces cérémonies, on peut les faire, précisément pour transmettre, c'est notre obligation de transmettre les valeurs de la liberté, les valeurs de la démocratie, de la citoyenneté. Les uns ne vont pas sans les autres. Et ça, c'est très important qu'on le sache. Et parce que les nouvelles générations, elles ont absolument besoin de savoir que la liberté, c'est quelque chose qui n'est pas un acquis pour toujours. Et que la liberté d'expression, elle a du recul des fois. Et donc, si la liberté d'expression a des reculs, c'est-à-dire qu'il faut former bien les citoyens pour qu'ils soient attentifs, qu'ils soient alertes, pour ne pas laisser que ça arrive. Et c'est pour ça que je participe avec un énorme plaisir, mais aussi avec un esprit de mission dans ce genre de débat, parce que d'un côté, il y a les jeunes qui sont là. Et je crois que les jeunes, ils ont besoin de savoir l'importance de la liberté et de la lutte pour la démocratie. Et les adultes, que des fois aussi ne s'engagent pas assez dans la défense de nos valeurs. Et ces événements sont aussi pour eux. La citoyenneté, elle s'y fait dans la défense de toutes ces valeurs. Parce que la différence entre le 25 avril et après le 25, avant le 25 avril et après le 25 avril, c'est total. Tout a changé avec le 25 avril. Tout le futur des Portugais, il a changé, et les circonstances, les possibilités, les opportunités des Portugais ont changé complètement. À mon époque, moi je suis fils des parents très humbles. Moi je croyais que je ne pourrais jamais faire le parcours que j'ai fait, aller à l'université, arriver au Parlement, etc. Parce qu'il y avait un système de caste, je crois que c'est comme ça, d'élite, de classes sociaux qui déterminaient le futur des gens depuis son berceau. Et ça, c'est horrible, parce que dans les sociétés, la démocratie, c'est ça, proportionner des opportunités à tout le monde et un bon développement de l'économie pour que les gens puissent vivre bien, mais aussi pour que les gens puissent vivre ses droits. Ses droits et être conscient aussi de ses devoirs. Parce que la démocratie comporte aussi des devoirs. Des devoirs de maintenir ce qu'on a conquis. Et pour moi, ça, c'est le plus important. Et maintenant, aujourd'hui, je crois qu'on vit une période où d'ailleurs, les années précédentes, on a vécu des moments où les démocraties, en général dans les pays, à cause de la crise, de la grave crise économique et financière qui a frappé le Portugal très durement, mais à cause des questions financières, mais c'est vraiment un problème que, au-delà de la souffrance du peuple et des peuples, le désarroi de nos sociétés, il y a aussi le fait que la démocratie dans les pays et la démocratie européenne, elle a été presque mise en cause à cause d'une mal gestion de la finance, on pourrait le dire pour résumer. Mais aujourd'hui, on a surmonté ce problème. Mais aujourd'hui, on a encore là un autre problème qui est tout ce qui se passe avec la désinformation de nos sociétés qui nous mène à une situation qu'on ne sait plus où est la vérité. Et pour qu'on puisse agir sur la démocratie et défendre la démocratie, il faut qu'on sache, qu'on soit conscient de ce qu'on doit faire, ce qui se passe autour de nous, quels sont nos intérêts, qu'est-ce qu'on doit défendre. Alors, avant le 25 avril, il n'y avait pas des manifestations, il y avait des événements, il y avait des gens qui luttaient pour la démocratie dans la clandestinité, et on doit lui faire hommage pour tout ce qu'il a fait pour nous tous. Et il y avait des événements de soutien au régime. Mais maintenant, on a bien vu les manifestations du 25 avril à venir de Bagdad. Et là, on se réjouit de voir les gens, tout le monde qui se manifeste, toute cette différence, les gens qui ont pris conscience de sa situation, soit au niveau partidaire, soit au niveau du travail, soit au niveau de la société, les mouvements sexistes, LGBT, toutes sortes de mouvements, et tout le monde y était, se manifestait, criait, disait, manifestait sa différence. Et ça, c'est complètement la différence entre la démocratie qui défend le respect pour la différence des autres. Démocratie, c'est différent, c'est respecter la différence. Mmh. Et un instant ou un moment, toute une histoire de 48 ans où n'avait pas cette liberté. Heureusement, on arrive à une certaine même maturité. Mais là, on a 44 ans de démocratie et on a presque autant de temps de démocratie que de dictature. Et ça, c'est un très bon signe pour l'avenir. Mais ça nous engage à tout le monde, d'y participer activement, politiquement, dans la défense de nos droits, dans le respect pour nous-mêmes, pour notre différence. Et c'est pour ça qu'être là, faire l'évocation de la liberté d'expression, faire l'évocation de la démocratie et de la citoyenneté, c'est quelque chose qu'on doit le faire, bien sûr, le 25 avril, mais tous les jours. Et on a tous là une responsabilité.
On entend bien, en vous écoutant, Paolo Pisco, autant 1968, ça a été une sorte d'explosion, d'événement inattendu, autant le 25 avril, c'était une révolution attendue. Et par exemple, parmi ceux qui l'attendaient, ceux qui s'étaient exilés, qui s'étaient réfugiés à l'étranger en raison des problèmes politiques, etc., ces gens-là, nombreux, sont rentrés au Portugal pour vivre cette révolution. Ça, on vous en a parlé, à vous. Vous aviez 12 ans, peut-être vous en souvenez pas, mais c'est quelque chose qui a compté pour soutenir les gens qui sont descendus dans la rue.
Oui, alors, pour répondre directement à votre question, après je reprendrai mes souvenirs personnels du 25 avril, mais évidemment, à l'époque, je m'en suis rendu compte parce que il y avait tous les leaders comme Mário Soares, Álvaro Cunhal, etc., qui rentraient dans ce voyage mythique du Sud-Express et qui étaient reçus à la gare de Lisbonne et donc qui rentraient. Tout cela passait à la télévision et j'ai pris connaissance avec mes 12 ans qu'il y avait évidemment des gens à l'étranger qui avaient fui la guerre ou qui avaient dû fuir le pays parce qu'ils étaient persécutés. Cela me remet dans mes souvenirs personnels du 25 avril. J'avais 12 ans, je suis allée au lycée, on nous a dit il y a une révolution, rentrée à l'école. Je suis rentrée et j'ai passé la journée scotchée à la radio avec ma mère. Mon père, il était militaire, donc il était en Angola en ce moment-là. Et nous deux, nous avions écouté tous ces communiqués de les FMIA, de mouvement des forces armées. Et ce qui m'a le plus étonnée, avec mes 12 ans, c'était d'écouter qu'on pensait donner la liberté, qu'on pensait décoloniser les colonies. Fille du régime, dans le sens que j'avais été élevée dans un pays sans démocratie et sans liberté d'expression, même si les gens autour de moi étaient contre les colonies, personne ne se prononçait là-dessus devant un enfant de 12 ans. Ce serait dangereux pour moi et pour les autres. Donc, élevée dans ce système du régime, je pensais, mais les colonies, mais c'est à nous, nous les avons découvert, ces territoires. Et le long de la journée, j'ai découvert l'autre vérité. J'ai découvert, bon, évidemment, ils y étaient déjà, ces gens-là. Cette question de « ils sont à nous », c'est très discutable. Et c'est dans ce sens que je trouve que j'ai trouvé intéressant que Mathias Reynard parle du rôle de l'histoire, de prendre certains éléments de l'histoire et de laisser d'autres, parce qu'évidemment, un événement peut être présenté de différentes façons. Et cela est très important, et c'est pour cela que la liberté d'expression est tellement importante. Je disais avant que le 25 avril a changé ma vie du tout au tout. Et ceci parce que elle a ouvert, cette révolution a ouvert des perspectives sur le passé et vers le futur. Sur le passé parce que tout d'un coup, j'ai relu l'histoire du pays d'une autre manière. J'ai continué scotché à la radio et à la télévision en découvrant ce qui avait été la vie de tous ces gens qui avaient lutté clandestinement contre le régime. Et ici, je voulais faire une parenthèse, on parle toujours des résistants portugais, mais on ne parle pas des mouvements de libération des anciennes colonies. Et sans ces mouvements de libération et la guerre de libération que nous, du côté du Portugal, nommons coloniale, il n'y aurait pas eu cette révolution le 25 avril 1974. Et cela, je trouve aussi très important. Et donc cela m'a permis de voir le pays différemment, l'histoire du pays différemment, donc des perspectives sur le passé, mais aussi l'ouverture vers un avenir différent, un avenir où tous étaient égaux. Et cela est très important. Comme disait monsieur Paul Pichko, avant ce n'était pas comme ça. Il y avait des avenirs qui étaient fermé à certaines personnes. Et là, tout était permis. Surtout dans le côté familial aussi, les femmes avaient gagné une voix. Les discussions familiales à table sont devenues beaucoup plus animées, hein, beaucoup plus vives. Et ce côté d'ouverture, de croire que tout le monde peut tout faire et peut dire. Tout le monde a droit à sa parole, à la voix, à dire ce qu'elle pense, à exprimer sa pensée, a été essentiel dans ma formation et dans la manière de construire ma personnalité. Et cela, je l'ai gagné avec ces années tout de suite après le 25 avril, où il y avait des RGE, des réunions générales d'école, où moi, avec mes 12 ans, vous pensez évidemment, mais qu'est-ce qu'une gamine de 12 ans va faire là-dedans? Mais j'allais à tout. Et j'apprenais tout. Et j'ai cessé d'aller au cours parce que j'avais déjà assez de notes pour passer, même sans les notes de la. Parce qu'on avait créé une règle différente. Et j'ai appris, pas la matière donc, d'enseignement de la troisième période scolaire, mais j'ai beaucoup appris sur le fonctionnement de la démocratie, sur l'expression, sur la liberté d'expression. Et cela a été une phase très riche de ma vie qui l'a influencée. Jusqu'à présent, je crois. Et je crois qu'on continuera là-dessus, mais je m'arrête là.
Et j'aimerais juste terminer un peu pour vous, pour dire que la preuve que le 25 avril a vraiment bouleversé votre vie, c'est que depuis que je vous ai rencontré ce matin, vous avez toujours cet œillet rouge à portée de main. Et je trouve ça très sympathique. Peut-être que pour revenir sur ce 25 avril, mais avancer un peu aussi, on peut se tourner vers Francesco Cugna parce que lui, il avait 6 ans. Et peut-être que si aujourd'hui, il est à Paris humoriste, c'est peut-être, on peut s'imaginer qu'il y a un lien avec cet héritage du 25 avril.
Sûrement, je pense qu'il y a un héritage parce que c'est, moi en tout cas en ce qui me concerne, je suis très intéressé d'entendre parler de ces personnes parce que c'est des gens qui s'y connaissent historiquement. Moi, ce n'est pas mon domaine. En tout cas, moi, mon domaine, c'est la liberté d'expression.
Mais quand même, à 6 ans, vous y étiez. Mais commencez juste par là pour qu'on. Je suis sûr que ça vous a aussi laissé des traces.
Bien sûr. Moi, ça m'a laissé des traces parce que je voyais du haut de mes 6 ans sur les épaules de mon cousin qui, lui, est adulte. Je voyais la joie des gens. Et surtout, je me rappelle, ils avaient peur de parler. Moi, je me rappelle mes tantes et mes oncles qui avaient peur de parler dans un bar quand il y avait des gens, etc. Et je pense que c'est ça en fait qui a explosé. C'est cette volonté et ce pouvoir de pouvoir communiquer politiquement ou dans d'autres domaines. Et par cela, sûrement, ça a influencé ce que je suis et mon métier, ce que je fais dans mon métier. Mais je pense que c'est plus des souvenirs pour moi, c'est plus à l'héritage.
Et dans votre métier, s'il est un métier où on aimerait pouvoir avoir le droit de tout dire, c'est bien celui d'humoriste, au nom de l'humour, de l'autodérision, etc. On se rend compte que c'est de moins en moins le cas. Alors, par exemple, dans votre métier, quelles sont les limites de la liberté d'expression? Et est-ce que ces limites deviennent plus aiguës au fil des ans?
Moi, je fais ce métier depuis une quinzaine d'années. J'ai écrit des pièces de théâtre au départ, j'ai fait du théâtre classique. Donc, dans le théâtre classique, quand je joue de Molière aux Racines, la liberté d'expression, c'est le texte qu'on nous donne. Donc, j'ai commencé par simplement interpréter. Et après, quand j'ai commencé à écrire des pièces et des sketchs, il y a 13 ans, 12 ans, je constate, en tout cas aujourd'hui en France, que ça a énormément évolué dans le mauvais côté. C'est qu'en fait, l'héritage de mai 68, un certain héritage justement de la liberté de parole, est en train de se perdre ou en train de se diluer dans d'autres libertés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans mon métier, moi, je fais de la mise en scène pour pas beaucoup d'artistes qui travaillent à la télé ou à la radio. Je constate, en tout cas, avec tous les gens que je travaille et ceux que je connais, qu'il y a toujours une petite hésitation quand on parle de politique ou quand on veut donner son avis aujourd'hui. Parce qu'on sait le prix à payer depuis que des humoristes ne passent plus à la télé, ne passent plus à la radio, parce qu'ils ont simplement osé plaisanter sur un sujet qu'on dit sérieux ou sur lequel on ne peut pas vraiment rigoler. Moi, je pense que depuis 10 ans, en tout cas en France, parce que je ne connais pas en fait, je travaille surtout en France, je pense que la liberté d'expression est en train un petit peu de stagner et de revenir un petit peu en arrière. Alors, il y a toutes les infrastructures et tous les médias qui sont nouveaux, qui sont à l'américaine, avec des beaux décors et des gens qui parlent bien, mais la vraie liberté d'expression, d'ailleurs, il n'y a aucun direct à la télé française, ça n'existe plus. Les directs, ils sont toujours avec 5 secondes ou 9 secondes de décalage, pour qu'on puisse couper la personne si jamais elle dit quelque chose qui ne va pas. Il n'y a plus de direct, vrai direct. Tout ça, c'est une conséquence, soi-disant, pour contrôler des débordements ou des incidents. Mais n'empêche que tout ça participe à ce que les artistes, s'ils veulent travailler, parce qu'il y a encore, moi je travaille avec plein d'artistes qui disent ce qu'ils veulent, mais il faut connaître le prix à payer. Ça veut dire qu'on passe chez Drucker une fois et on ne reviendra plus. Ou on fait des grandes salles, mais on ne reviendra plus dans ces grandes salles. Alors que si vous faites des sketchs sur le quotidien, comme il se fait beaucoup aujourd'hui, ça veut dire des sketchs sur le fait de prendre le métro et que le siège est sale, ça, personne ne va vous embêter avec ça parce que ça ne touche rien. Ça fait marrer les gens, ça remplit des salles énormes, comme l'Olympia, mais ça ne touche rien. Et c'est ce que les gens veulent aujourd'hui, les autorités. C'est que ça ne touche rien. Ça fasse rigoler les gens d'une façon, en fait, très simple.
Nazaré Touraou, je vous vois opiner du chef. Comment vous expliquez? C'est trop de morale, une rigidité dans la société qui fait que la liberté d'expression est en danger, et au-delà, on peut même imaginer la démocratie peut être en danger si on se laisse comme ça brimer.
Bien, ce n'est pas vraiment mon domaine, comme je l'ai déjà dit, mais je trouve toutes ces limitations terribles. Je trouve que c'est quand même terrible, parce que c'est à double tranchant. D'un côté, évidemment, il faut penser à ce qu'on dit, et on ne peut pas dire n'importe quoi, et offenser éventuellement des minorités. Par contre, si on ne discute pas certains problèmes ouvertement, on ne peut pas en discuter justement. Et si on ne peut pas en discuter, on va continuer de penser la même chose, chacun dans son coin, sans qu'on puisse discuter. C'est de la discussion qui met quand même une ouverture et une compréhension des faits. Et donc, je trouve très, très préoccupant
qu'on ne puisse pas passer des directs. C'est pour moi une attente à la liberté d'expression terrible, bien évidemment. Donc dans ce sens, je trouve que c'est très préoccupant. Par contre, bon, dans ce qui concerne la liberté d'expression et les préoccupations d'aujourd'hui, je crois que, à part ce fait, disons, pour faire court du politiquement correct, je trouve qu'il y a d'autres sujets aussi préoccupants, comme l'accès, comme on l'a vu récemment avec les élections aux États-Unis, etc., du Brexit, donc l'utilisation des réseaux sociaux d'une manière détournée, avec des nouvelles fausses répandues volontairement. Donc cela est un grand problème de nos sociétés, bien évidemment, et elle découle en même temps de la liberté d'expression, mais c'est un problème quand même. Et puis il y a aussi le problème d'accès aux data, donc, et aussi, sans oublier, si on parle des problèmes de liberté d'expression, pour moi il y a évidemment aussi le problème des grands groupes médiatiques, qui est derrière ces grands groupes, les intérêts économiques qui sont derrière les groupes économiques qui gèrent les médias. Et cela, je crois qu'au Portugal, on peut dire que les grands journaux sont quand même très indépendants, donc la presse écrite, et j'en suis très fière. Je trouve qu'il y a une presse écrite de très grande qualité au Portugal, assez indépendante. Par contre, je trouve que la qualité de la télévision, des journaux parlés, elle ne me plaît pas du tout. Ceci, on en parlera peut-être après. Mais par contre, je trouve que ces intérêts cachés, parce qu'avant, quand c'était mai 68, il y a eu la grève de RTF. On en a discuté justement parce que les journalistes voulaient pouvoir être indépendants du pouvoir politique et ne plus dire que ce que le gouvernement approuvait. Or, évidemment, ce type de problème n'existe plus, ou du moins d'une manière aussi évidente. Par contre, les groupes économiques peuvent aussi influencer beaucoup les nouvelles qu'on a ou qu'on n'a pas. Et cela, je trouve plus préoccupant parce que c'est plus diffus, on contrôle moins, on sait moins.
Paolo, puisque vous nous avez dit tout à l'heure l'héritage du 25 avril, tout ce que la démocratie a gagné, notamment dans votre pays, en tant que député au Parlement aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire pour transmettre aux générations futures les mêmes chances et la même liberté d'expression? Est-ce que vous avez des soucis, vous avez des lieux où vous inquiétez?
Oui, j'en ai des soucis, et la possibilité qu'on a de parler sur la démocratie, la liberté d'expression, c'est une façon de transmettre à nos sociétés que ces valeurs ne doivent pas être préjudiquées. Ce que Francisco vient de nous dire, c'est vraiment un problème contradictoire auquel on devrait faire la plus grande attention. À travers l'humour et à travers la presse, on voit très bien les changements de la liberté, d'expression dans nos sociétés. Et Francisco l'a très bien décrit, parce que effectivement, il y a une tendance dans nos sociétés pour imposer une sorte d'autocensure, parce que les pouvoirs publics, ils n'aiment pas être critiqués. Et donc, il y a ces conséquences. Mais il y a une différence. On voit une différence dans la presse, on voit une différence dans le monde. Parce que d'un côté, je crois que la presse, elle était beaucoup plus libre auparavant, même si au Portugal, on peut dire, dans la généralité des pays en Europe, que la presse, elle exprime la volonté des différents groupes de nos sociétés. Mais il y a en effet un problème qui c'est celui qui Francisco a parlé. D'un côté, on ne fait plus un humour qui est dirigé contre les politiciens. ou contre certains groupes de nos sociétés par rapport auxquels il faut faire le politiquement correct. Et de l'autre côté, dans les médias, il y a une, les journalistes aussi, ils sont des fois un peu encadrés par des pouvoirs économiques. Et ça fait un changement. Il n'y a plus des coopératifs de journalistes comme auparavant, comme il existait au Portugal, et ça se voit, le théâtre de revistes qui existait au Portugal, il n'existe plus. Tous les partis politiques, les premiers ministres, le président, ils étaient critiqués. Les choses comme une sorte de contre-information, ils n'existent plus. Donc il y a une hypersensibilité. Et ça, c'est très contradictoire parce que soit les grands documents qui encadrent nos libertés, soit la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit que la liberté, la liberté d'expression doit se faire par tous les moyens et sans frontières. Et ce qu'on voit, c'est qu'elle ne se fait pas par tous les moyens ni sans frontières. Il y a des frontières. Et même nos constitutions, qui défendent aussi la liberté, ou la convention des droits fondamentaux qui exprime aussi la défense de toutes les libertés, il y a là une contradiction parce qu'effectivement, on les vit pas d'une façon pleine et absolue, sans avoir la censure des conséquences, comme Francisco a dit, dans notre travail, dans notre vie. Et donc, comme tout le monde a besoin de travailler, si on dit une blague un peu gênante, ça peut avoir des conséquences et on peut même, à la limite, être mis à la mort. Et donc, c'est pour ça que célébrer le 25 avril, les libertés, la liberté d'expression, les citoyennetés, mener tout le monde à défendre les libertés, la liberté d'expression, s'engager dans tous ces débats, prendre la conscience, transmettre aux nouvelles générations l'importance de défendre ces valeurs, c'est très 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 important. Parce que la question, c'est qu'on commence par ces petites choses. Et ce n'est pas un acquis, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la liberté et la démocratie, elles existent pour toute la vie. Comme les empires, ils ne sont pas éternels. La démocratie, ça dépend de nous. Mérite. Ça dépend de nos engagements et de la défense de ces valeurs, qui sont des valeurs universelles.
Ça se mérite. Je vous interromps un tout petit peu parce qu'on me fait signe, mais j'ai quand même envie de finir mon tour de table. Et je suis contente que Mathias Reynard soit avec nous parce qu'il est d'une génération bien placée pour juger ce qui se passe aujourd'hui. D'une part, j'imagine, Mathias Reynard, que vous êtes au cœur des réseaux sociaux, que vous êtes une génération qui est née avec la liberté d'expression, avec tous les acquis qu'en 68 on a très vite cru gagner à vie, que vous êtes aujourd'hui le spectateur des dangers et des risques et des menaces qui menacent cet édifice. Alors j'aimerais avoir votre opinion sur justement comment aujourd'hui rester vigilant.
Il faut rester vigilant, c'est certain. Le débat est particulièrement vif en Suisse autour de la diversité des médias, parce que la liberté d'expression passe aussi par la diversité et l'indépendance des médias. Et ce qui a été dit par mes préopinants, notamment sur la question de l'humour, c'est crucial. Et pour pouvoir avoir de l'humour qui ne soit pas complaisant, qui fasse bouger les choses, qui se moque du pouvoir, qui se moque des puissants, eh bien, il faut pouvoir avoir les espaces pour le faire. Et pour avoir les espaces pour le faire, eh bien, il faut des médias de service public qui ne soient pas liés à des grands groupes avec des intérêts privés très clairs, mais qui ne soient pas non plus liés à un pouvoir politique en place qui a des intérêts très clairs. Et c'est une des dérives qu'on constate. C'est une des dérives qu'on constate en France. Ça passe aussi par le soutien à la création culturelle, artistique, qui là aussi doit venir, bien sûr, des pouvoirs publics, mais tout le temps en laissant une autonomie et une capacité d'autodérision, une capacité à remettre en question les normes, à remettre en question les puissants. Et puis je terminerai en disant que la liberté d'expression, elle est importante, mais pas juste comme un slogan. Et la liberté d'expression, pour qu'elle soit une réalité, il faut qu'on donne la parole à tout le monde. Et c'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Il suffit pas de se remémorer des grandes révolutions et puis de croire que tout est obtenu. C'est loin d'être le cas. combien est-ce qu'il y a aujourd'hui d'ouvriers au Parlement suisse ? Zéro. Il n'y a quasiment pas un salarié non plus au Parlement suisse. Il y a une sous-représentation des femmes, il y a une sous-représentation des catégories de travailleurs. Ça, c'est une réalité aussi, et c'est des gens qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas, ni dans l'espace politique, ni dans l'espace médiatique. Et on pourrait faire à peu près la même réalité avec la question des personnes issues de l'immigration. Aujourd'hui, les personnes responsabilité politique, par exemple en Valais, quasiment que des gens issus du canton du Valais, alors que bah oui, on a 30 000 personnes dans notre canton qui sont d'origine portugaise et qui ont aussi le droit de participer aux décisions. Et c'est pour ça que je milite notamment pour le droit de vote des étrangers au niveau communal après un certain nombre d'années passées là. La personne qui est là depuis 10 ans, 15 ans, qui travaille là, qui paye ses impôts là, qui a ses enfants qui vont à l'école ici, qui est impliqué dans les sociétés ici, bah, elle a le droit aussi de donner son avis.
Alors, après une tribune politique, on va peut-être écouter le professeur de sciences politiques, peut-être pour cette conclusion, cette liberté d'expression, on l'a acquise, mais en quoi, assez brièvement et pour conclure, on doit faire attention pour la conserver et pour la faire durer?
Je dirais qu'il y a un double devoir de la part de ceux qui sont les utilisateurs de la liberté d'expression, c'est-à-dire vous et moi et les médias. Il y a un devoir de responsabilité. Je pense qu'une liberté doit se lier à une responsabilité. C'est un devoir moral et c'est un devoir politique. La liberté de conduire une voiture, eh bien, vous savez très bien que vous avez une assurance responsabilité civile. Donc, usage d'une liberté, ça se coupe avec une responsabilité à la fois morale, juridique et politique. Et le système politique, les tribunaux, doivent veiller à ce que les usagers de la parole aient une attitude responsable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans le détail? On peut discuter ça après à la cafétéria.
On n'a pas le temps.
Mais le deuxième devoir, tout ça pour faire bref parce que les sujets sont immenses, le deuxième devoir, c'est, ça a été évoqué déjà autour de cette table, le devoir de faire attention à ce que cette liberté d'expression, comme les autres libertés, ne soit pas confisqué. Je dirais que le danger actuellement n'est pas tellement qu'on nous enlève la liberté d'expression. Là, je crois que nous serions beaucoup à nous battre pour qu'on nous la rende. S'il y avait une nouvelle loi disant maintenant la liberté d'expression est supprimée. C'est pas ça le danger. Le danger, c'est la confiscation. C'est-à-dire que des grands groupes laisse parler les gens comme ils veulent, ça ne les gêne pas, allez causer, nous on s'occupe des choses sérieuses, c'est-à-dire du business, etc. Exactement un peu ce qui s'est passé sur Facebook, où les gens tapotent ce qu'ils veulent, et puis après on leur confisque leurs données de manière absolument scandaleuse. Moi, j'ai une préoccupation par rapport à la liberté d'expression, une préoccupation fondamentale, c'est le mariage d'une liberté avec une autre liberté qui est la liberté, comme on dit en Suisse, du commerce et de l'industrie, ou la liberté des entrepreneurs, la liberté économique et l'apport de la technologie. La technologie est un multiplicateur de puissance dans tous les domaines, les canons, les voitures, les locomotives et les technologies de l'information et de la culture. Et ça, c'est tout à fait redoutable que nos paroles ne soient pas annulées ou confisquées par ceux qui manipulent ces instruments technologiques de la parole. Merci.
Si quelqu'un avait une question, c'est le moment. À un de nos invités.
Bonjour, merci beaucoup pour ce tableau vert. En fait, j'avais une question pour Monsieur Reynard et Monsieur le député. Voilà, merci beaucoup. En fait, c'était, vu que vous êtes les deux dans un milieu politique, donc l'un dans la politique suisse et l'autre dans le milieu politique portugais, on sait que voilà, la Suisse et le Portugal ont deux systèmes politiques démocratiques différents. Donc en fait, c'était pour Monsieur Reynard savoir votre point de vue sur, au niveau du Portugal, la démocratie représentative. Un petit peu plus fort, pardon. Quel est votre point de vue sur la démocratie représentative, comme on a au Portugal? Et contrario, monsieur le député, vous, quel est votre point de vue par rapport à la démocratie directe? Et qu'est-ce qu'on pourrait tirer du mieux de l'une et l'autre des deux systèmes? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré?
Alors, merci pour cette question. Bon, moi je suis un grand défenseur de la démocratie, en fait, qui est une démocratie semi-directe, parce qu'on a quand même des élections de représentants. Dont je fais partie, et puis à côté de ça on a des objets sur lesquels le peuple vote. Je pense que c'est un modèle, que c'est un modèle qui devrait être répandu dans de nombreux autres pays, qui est une solution intéressante aussi pour sortir de crise, pour permettre d'avoir des projets qui viennent vraiment de la base, de la population, et puis les faire émerger. Je pense par contre qu'il faut toujours faire attention à ne pas venir donner des leçons aux autres pays et à ne pas non plus trop idéaliser notre système. Notre système a aussi ses failles. On a aussi une sous-représentation de certaines catégories dans notre Parlement et on a aussi une démocratie directe ou semi-directe dans laquelle on a des problèmes, notamment en termes de transparence et d'indépendance, puisque on sait aujourd'hui que c'est des campagnes qui sont bien souvent énormes, qui ne sont pas financées par hasard, et on ne sait bien souvent pas d'où vient cet argent. Donc je pense que notre système est encore perfectible, mais c'est un système qui peut être intéressant, qui peut-être peut intéresser le Portugal. Et puis, moi, je suis avec beaucoup d'attention ce qui se passe aujourd'hui au Portugal, bien sûr, parce que c'est des gens qui me sont proches au niveau des valeurs qui sont au gouvernement, et je suis avec beaucoup d'intérêt pour énormément de choses qui se font du point de vue économique, mais aussi du point de vue d'égalité femmes-hommes. Il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui, pour lesquelles aujourd'hui le Portugal est à la pointe au niveau européen, et on ne le sait pas. Et ça, je regrette un petit peu. Souvent, les médias parlent beaucoup de la France, beaucoup de l'Allemagne, beaucoup de l'Italie, mais pas tellement du Portugal et de ce qui se fait avec le gouvernement portugais, alors qu'il y a beaucoup de choses intéressantes.
Moi, je crois que c'est de la nature de la démocratie que les systèmes politiques puissent se perfectionner. Et lors des discours du 25 avril, maintenant à l'Assemblée de la République, une des choses qui était très présente, c'était la rénovation du système et de faire en sorte qu'il y ait une plus grande proximité envers les citoyens. La démocratie, c'est ça, avec toute la transparence que c'est exigé, demandé au pouvoir public. En disant ça, je dirais aussi que tous les systèmes, ils ne sont pas tous parfaits. Il y a des choses qui sont très bien dans la démocratie directe, comme il y a des choses qui sont très bien dans la démocratie en direct, comme on l'a vu. Mais même si j'ai une certaine sympathie par les référendums, je l'ai assurément, parce que c'est la participation du peuple pour qu'il puisse décider. Moi, j'ai très présent les derniers référendums qui se sont réalisés en Europe, avec des résultats dans certains cas absolument catastrophiques, et les plus évidentes, c'est le Brexit. C'est quelque chose que, dans une démocratie directe, a eu des résultats vraiment catastrophiques pour le Royaume-Uni, beaucoup plus pour le Royaume-Uni que pour l'Europe. Je me souviens aussi du référendum contre l'immigration en masse, qui a donné, ici en Suisse, un résultat un peu irrationnel. En plus, parce que la Suisse, à cette époque-là, il vivait le plan chômage, en plus. C'est un peu des choses, mais c'est très facile de manipuler les sentiments des gens. Et donc, je me méfie un peu de ça. Je voulais dire très brièvement deux choses par rapport au fait qu'en Europe, maintenant, il y a des choses qu'on doit être alerte par rapport à la défense de notre démocratie. Parce que quand on parle de ça, on ne parle pas en abstrait. Parce que l'Union européenne, qui c'est un très grand défenseur de la démocratie, de la transparence à tous les niveaux, il y a des cas qui sont très préoccupants et que j'espère qu'ils ne se répandent pas. Je cite ce qui se passe dans des pays comme l'Hongrie et la Pologne, où les libertés publiques, les droits fondamentaux, les droits de la société, ils sont beaucoup plus rétrécis. D'un côté, ça, avec une influence très conditionnante sur les médias, c'est très préoccupant. Mais encore plus grave que ça, c'est le fait que dans deux pays de l'Union européenne, en Malte et en Slovaquie, deux journalistes ont été assassinés seulement parce qu'ils faisaient son boulot de recherche. Et ça se passe dans l'Union européenne, la patrie des valeurs, de la valeur, des valeurs de la liberté, la patrie globale de l'Union européenne. Et donc, ce n'est pas quelque chose en abstrait quand on parle ici de liberté. Il y a des cas concrets qui mènent à qu'on soit préoccupé.
En tout cas, je vous remercie tous ici présents.
Mais uma vez estamos aqui no Portugal Open, terceira edição aqui em Rune, e temos o senhor deputado Gonçalves, que está connosco, que vamos entrevistar
Carlos
hoje.
Gonçalves, sim.
Carlos Gonçalves. Primeira pergunta, qual é que vos trouxe aqui em Rune? Qual foi a motivação e o interesse de vir hoje aqui em Rune para este Portugal Open?
Olha, em primeiro lugar, permita-me que saúde o auditório da Rádio Vibração, e desde já felicitar todos vocês que dão cor para esta, não só a esta emissão, mas a uma rádio que transmite em português e que trata de questões relativas à nossa comunidade. E a vossa presença aqui tem um pouco a ver com aquilo, as razões que me levaram a estar aqui. Eu sou deputado eleito em Portugal, deputado que representa os portugueses que residem no estrangeiro, no círculo eleitoral da Europa, e esta é uma iniciativa de grande promoção da cultura e da língua portuguesa, e eu acho que a vinda aqui de um deputado que representa os portugueses, que também na Suíça e em Portugal, acho que é obrigatório, e por isso eu estar aqui hoje, aqui em Rune.
Obrigado. Uma segunda pergunta, tivemos a oportunidade de assistir à mesa redonda, com um debate sobre a cultura e a promoção e a integração dos cidadãos portugueses aqui na Suíça, e o senhor deputado, ao que me percebi, também tem uma vontade também de dar possibilidades aos cidadãos portugueses imigrantes aqui na Suíça de ter acesso à cultura portuguesa. E queria ter mais detalhes para os nossos ouvintes, o que o senhor deputado espera do governo suíço em ajudar os cidadãos portugueses, imigrantes aqui na Suíça, para promover mais e ter acesso à cultura e à língua portuguesa.
Olha, eu, para além de ser deputado, sou também vice-presidente do Grupo de Amizade Parlamentar Portugal-Suíça. E, portanto, esta é uma matéria, que é a matéria da língua portuguesa na Suíça, é uma matéria que já tive a oportunidade de tratar no Parlamento e que tenho tratado na relação com alguns deputados suíços que conheço, porque eu também sou membro do Conselho, da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Aquilo que eu acho é que a oferta de ensino de língua portuguesa na Suíça, seja boa ou seja má, não foi essa a pergunta, é toda ela, ou praticamente toda ela, suportada pelo Estado português. Ora, neste país vivem quase 300 mil portugueses, alguns já vão na terceira e na quarta geração, é aqui que pagam os seus impostos. E este debate tinha a ver com a integração, e a integração também passa para que, pelo facto da língua portuguesa poder ser ensinada nos currículos oficiais locais, tal como é outras línguas, o espanhol e o italiano, para que a nossa comunidade sinta também que a nossa língua está ao mesmo nível, e muito particularmente nas gerações mais antigas, que já têm muitos casamentos mistos, e há crianças que já não são filhos de dois portugueses, são filhos de um português ou de uma portuguesa e de um suíço. E realmente, a aposta na língua portuguesa aqui na Suíça, por parte das autoridades helvéticas, é muito reduzida ou quase inexistente. Isto também tem a ver com a integração, porque a aprendizagem da língua portuguesa favorece também a integração, e portanto eu estou num palco suíço, tinha atores políticos suíços, acho que era o meu dever também alertar, como já alertei diretamente a alguns deputados suíços, para o facto de que tem que haver algum investimento. Uma comunidade que tem 300 mil pessoas aqui, uma língua que é a terceira língua europeia e a quinta no mundo, ainda por cima uma comunidade que cada vez é mais suíça e menos portuguesa, porque as novas gerações vão ficar certamente aqui a viver, acho que era normal, tal e qual como o espanhol e o italiano tivessem oferta nas escolas oficiais suíças. Isto é um processo que demorará muito tempo, mas acho que era bom iniciá-lo.
Ok, e estamos a falar de língua, mas acha também que havia de haver uma parte sobre a cultura, como a história, a geografia, sobre a história de Portugal, como temos hoje em dia nas aulas de português, que são dadas fora da escola suíça? Acha que também que a cultura a nível de história do país, desses aspectos, também seria uma coisa que podíamos inculcar ou pedir ao governo helvético de também promover?
Isso é um pouco mais difícil, mas não é... Uma coisa não quer dizer com a outra. Se você tiver uma oferta de língua portuguesa, ou se a língua portuguesa estiver integrada, e as possibilidades de sucesso académico da nossa comunidade começarem a subir, para não serem tanto dirigidos para as vias profissionais e mais para continuar os estudos universitários e por aí fora, a comunidade depois ela própria, mantendo-se ligada a Portugal, ela própria vai procurar esse tipo de informação. Eu falo por conhecimento de causa, eu sou deputado em Portugal desde 2002, mas sou imigrante, como vocês, a minha família vive na região de Paris, e os meus filhos...
O que explica que o senhor também fala muito bem o francês, como tivemos.
É isso mesmo. Até estudei, fiz estudos superiores em França. Mas é um francês de França, não é um francês de Suíça, e às vezes há aqui algumas nuances. Mas tudo bem. Mas aquilo que eu acho é que, desde logo, a língua. Normalmente, a aprendizagem da língua vem sempre associada a alguns elementos mínimos históricos e até geográficos do país da língua, até para haver algum enquadramento. Agora, aquilo que eu acho é que nós temos que melhorar o sucesso escolar da nossa comunidade, e o sucesso escolar da nossa comunidade tem muito a ver com a capacidade... Repare, nós estamos num país multilingue, neste lado estamos num cantão em que a língua oficial é o francês, um pouco mais à frente já é o alemão. Portanto, não é um país fácil nestas matérias das línguas. Isto complica muito a vida aos portugueses, sobretudo àqueles que chegaram há pouco tempo, porque não falam as línguas oficiais da Suíça. E isto tem prejudicado muito a nossa comunidade, mas se ela, no plano escolar, os nossos filhos, os nossos netos, tiverem sucesso no plano escolar, eles próprios depois têm capacidade, sabendo um pouco de Portugal, de terem esses elementos que a pergunta que me fez agora mesmo.
Ok. Acabou de falar que, pronto, que as pessoas que acabam de chegar de Portugal para a Suíça, que é também mais complicado para eles, mas de uma certa forma haverá essa pergunta de o povo português, porque que fugiu de Portugal? Será que não haverá também uma pergunta, de um lado, o que é que Portugal também podia fazer para guardar os cidadãos a ficar em Portugal? Porque sabemos que em Portugal há também uma das melhores escolas, temos escolas como de médicos, e sabemos todos que na Suíça são muito contentes com os médicos que foram formados em Portugal. E de uma certa forma, se calhar, não, haverá essa pergunta que Portugal havia também, se calhar, de fazer alguma coisa mais a nível nacional para guardar os cidadãos a ficarem em Portugal e não expatriar-se em países estrangeiros.
Isto é assim, nós tivemos sempre uma tendência para sair do país, histórica, mas é verdade que os nossos fluxos migratórios têm sempre a ver em momentos em que o país falhou. As pessoas que emigraram nos anos 60 não emigraram de livre vontade, emigraram para encontrar noutro país uma solução para a sua vida pessoal e para a sua vida familiar. Foi a pensar nos filhos e na família que muitas das pessoas tomaram uma atitude muito difícil, que é deixar a sua terra e vir para o estrangeiro, muito particularmente para a Suíça. Hoje os tempos são um pouco diferentes, porque a imigração, repare, mesmo em 2017, imigraram 100 mil portugueses. Só que dos 100 mil que emigram, no fundo só 40 mil verdadeiramente é que saem. Os outros é aquele movimento pendular, entram, saem, procuram um emprego. Hoje temos um mundo muito mais global, não é bem igual aos anos 60. Mas a razão pela qual continua a haver muitos imigrantes económicos em Portugal é que o país ainda não encontrou as respostas suficientes para manter a sua gente no seu país. Porque quem emigra, emigra sempre por necessidade, independentemente das pessoas todos os dias no telejornal verem grandes notícias em relação ao país. A pergunta que me fez, devia dirigi-la também a outras pessoas em Portugal: como é que é possível um país que corre tão bem e as pessoas continuam a sair do país? As pessoas saem por necessidade, não saem por livre vontade, independentemente desta globalidade que agora acontece, muito particularmente para quem tem formação na área da saúde, que tem ofertas de trabalho muito interessantes no Reino Unido, em França e muito particularmente aqui na Confederação Helvética, mas estamos a falar de pessoas às vezes com fraco nível de formação profissional e que vêm para aqui e trabalham em condições de grande dificuldade. Mas quem emigra é um ato muito corajoso, sobretudo aqueles que emigraram em tempos em que era tudo muito mais difícil.
Exatamente. Senhor Deputado, muito obrigado e boa continuação.
Muito obrigado e agradeço imenso ter-me dado esta oportunidade e permita-me uma vez mais que saúde todos os ouvintes e continue a dar corpo a esta magnífica instituição que é a vossa rádio.
Muito obrigado.